Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Donc, on va démarrer. Pour cette session, je vais vous faire travailler pour commencer. Parce qu'avant de tout vous donner, je vais vous faire un petit peu creuser et trouver certaines choses fondamentales sur la louange. C'est comme ça aussi que j'ai commencé. Je vous ai donné l'exemple un peu de mon témoignage. J'ai un petit peu cherché c'est quoi la louange finalement. Parce que je savais la pratiquer, je louais Dieu, je chantais, mais je savais pas fondamentalement ce que c'était. Alors j'aimerais, pendant cette première session, vous donner 5 questions et vous faire creuser et trouver des réponses. Puis ensuite, on va partager toutes les réponses ensemble. Donc, les 5 questions sont les questions fondamentales sur la louange. C'est le titre du message, d'ailleurs. Questions fondamentales sur la louange. Les questions fondamentales, c'est, première question, comment louer Dieu? Comment louer Dieu? La deuxième question, c'est quand louer Dieu? À quel moment? Vous pouvez me trouver le verset biblique qui dit que c'est dimanche matin à 10h. Hein? Je pense que quelqu'un va le trouver, j'espère. Troisième question, c'est où louer Dieu? Si vous trouvez l'adresse de votre église ou d'une autre, vous me la donnez. Quatrième question, qui peut louer Dieu ou doit louer Dieu? Et cinquième question, fondamentale, pourquoi louer Dieu? 5. Alors, 4, c'est qui? Je répète, première, c'est comment? 2, c'est quand? 3, c'est où? 4, c'est qui? Et 5, c'est pourquoi? Comment, quand, où, qui, pourquoi? Et j'aimerais pour ces réponses, pas que vous me donniez votre pensée, mais vous trouviez des versets bibliques pour chaque réponse. Au moins un, minimum. Si vous en avez 2, c'est bien. Mais il y en a des centaines pour chaque question. Donc, vous devriez y arriver facilement. Je vous donne aussi un petit truc. Dans les psaumes, bien sûr, vous prenez votre Bible. C'est votre outil de travail. Vous n'avez pas encore... Donc, il y a beaucoup de réponses dans les psaumes, bien sûr, puisque les psaumes sont le livre de louange de la Bible, mais il y a aussi des choses dans d'autres textes. Donc, s'il n'y a pas que les psaumes, c'est aussi bien de trouver dans d'autres textes. Dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, il y a des réponses partout. Donc, au moins un verset pour chaque question, et puis si vous en avez plus, et puis à la fin... On fait le bilan et on partage tous ensemble. Je vous laisse 5 minutes par question, donc 25 minutes, et après on échange ensemble sur le sujet. C'est clair? Donc on regarde la réponse à chacune de ces questions. Première question, comment louer Dieu? Qui peut me citer un texte? Qu'est-ce que vous avez trouvé pour cette question, comment louer Dieu? Vas-y. Psaume 133. Vas-y, tu le cites, tu le lis. Donc on a toute une liste d'instruments et de voix. Donc avec des instruments, avec des voix. Autre référence, autre exemple.
Psaume 153:5.
Psaume 153:5. Oui, tu peux le lire. C'est bien quand vous citez un verset, vous le lisez, comme ça on a la référence exacte de ce qui est écrit. Donc dans le psaume 150, on a une très bonne réponse à cette question. Comment? C'est 3-5.
Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin, avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes.
Voilà, toutes sortes d'instruments et aussi la danse. Très intéressant. C'est bien d'avoir cette référence. Oui, ma sœur, derrière. Psaume 149, verset 3. Tu peux le lire. Encore une fois, la danse. Et puis, des instruments différents. Oui?
Psaume 150.
Psaume 100. Bon. On vient de le citer. 153.5. Voilà. Voilà. Autre chose. 81, psaume. Vas-y. Versets 2 à 4. Voilà. Donc, il y a chanté, il y a crié, et puis, il y a encore une fois des instruments. Autre chose? Quelqu'un d'autre? Jean 4, verset 23. Tu cites? Voilà. Comment? En esprit et en vérité. Ça, c'est un texte qu'on va revoir plusieurs fois, parce que c'est un texte fondamental sur comment louer Dieu. Mais on cite juste esprit et vérité. Très bien. Autre chose? Une confirmation de certains textes ou bien d'autres éléments qui ne seraient pas encore là? Vous avez tous trouvé les mêmes références. Après, ça se répète, mais il y a peut-être quand même d'autres éléments qui n'étaient pas là.
Je ne sais pas où est le texte, mais ce texte qui dit, que Jésus a dit, comprenez ce à quoi je prends plaisir, non sacrifice, mais à l'obéissance.
Sacrifice à l'obéissance, oui. Ça, c'est dans... il y a plusieurs textes qui parlent sacrifice. Dans, par exemple, Hébreux 13, verset 15, vous pouvez noter ça. Offrez votre louange comme un sacrifice. Ouais. Donc, sacrifice. Et puis, Hébreux 13, 15. Et ça, il reprend un texte de l'Ancien Testament de Samuel qui parle, qui préfère l'obéissance au sacrifice. Mais là, je n'ai pas la référence. À... Quelqu'un là? 15-22. 2 Samuel 15-22. Je préfère l'obéissance au sacrifice. Voilà, très très bien. Comment? Par obéissance. Pas seulement par les sacrifices. Il y a les sacrifices et il y a aussi l'obéissance. Très important. Autre chose? Encore? Oui? Vas-y, cite-le.
Louez l'Éternel, louez l'Éternel de tout mon cœur, dans la société des hommes droits et dans l'assemblée. Alléluia, vive le Seigneur, je veux louer le Seigneur de tout mon cœur parmi les fidèles.
Voilà. Très bien, de tout mon cœur. Donc, vous voyez, dans chacun de ces versets, on trouve une manière. Et puis, je pense que la louange, c'est ça qui est intéressant, c'est de mettre toutes ces choses ensemble. Parce que le problème que je constate, c'est que certaines églises choisissent une option. Ils disent, nous on fait comme ça. Puis on prend un verset qui nous plaît, puis on l'applique, très bien, mais on oublie les autres. Ou alors on exclut les autres. Mais je crois que l'importance, c'est d'avoir la plénitude de la pensée de Dieu. Et de la pensée de Dieu, on a toutes ces choses. On a dansé, on a crié, on a chanté. Et puis, on a aussi toute une liste d'instruments. Dans certaines églises, ils choisissent des instruments. Ils disent, ça, c'est les instruments pour la louange, mais pas les autres. Alors que la Bible parle de tous les instruments. Et dans le psaume 150, c'est très intéressant parce que ce psaume, il donne toutes les réponses à toutes les questions. Hein. Mais entre autres, là, il cite les instruments. Et si on regarde les instruments, c'est la liste de tous les instruments qui existaient à l'époque de la Bible. Donc, vous pouvez regarder ça dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés. Il y a toujours quatre groupes d'instruments. Hein. Il y a les instruments à cordes. Dans trois groupes, les instruments à vent, puis les instruments à percussion. C'est les trois groupes qu'il y a. Vous pouvez mettre tous les instruments là-dedans, de n'importe quelle culture, race. Soit c'est une corde qui vibre, soit c'est un instrument qu'on souffle, soit c'est une percussion qu'on frappe. Pour aller en Corée, pour aller en Chine, pour aller en Afrique, pour aller en Europe, en Amérique du Sud, il y a toujours ces trois instruments. Et dans cette liste, on a les trois groupes d'instruments. Alors que dans certaines églises, on a dit, pas de batterie, pas de percussion. Ou dans d'autres églises, on a dit, pas de flûte ou pas de trompette. Et puis dans d'autres, on veut pas, je ne sais pas quel instrument. Alors que la Bible dit, vous avez des instruments, prenez-les. Mais ce qu'il faut faire, c'est louer Dieu avec. C'est ça la différence. Si on joue pour soi, pour devenir célèbre, beau, fort, meilleur, hein, c'est autre chose. Mais si on l'utilise pour la louange, on peut utiliser n'importe quel instrument. Bien sûr, il faut que l'instrument soit sanctifié et surtout que la personne qui joue. C'est ça la clé. Mais comment? Avec les instruments, tous les instruments sont dans la Bible. tous les groupes d'instruments sont dans la Bible. Et puis, bien sûr, chanter, crier, bouger, danser, etc. Là aussi, ça va plus loin que les cultures. Certaines cultures ont dit, ça on peut faire, ça on peut pas faire. La Bible dit danser. Elle dit pas qu'elle danse. Il y a des chrétiens qui disent, ah, mais ça c'est dans celle-là. La Bible dit danser. Alors on va pas copier les danses du monde, on va danser pour Dieu avec notre corps. C'est-à-dire, on va bouger dans sa présence. Et c'est important de voir ça. Ok, deuxième question. Alors, toutes ces questions, vous pouvez rajouter des versets. J'espère que cette liste, vous allez la garder dans un coin de votre Bible, de vos notes. Et puis quand vous lisez la Bible, vous trouvez des références, ben vous les rajoutez. Et comme ça, vous avez vraiment un message, vous avez des outils, vous avez quelque chose pour présider la louange. Moi, parfois, je préside la louange, je prends une question et j'y réponds sans que les gens me posent la question. Mais je sais que je les enseigne. Comment est-ce qu'on peut louer Dieu ce matin? Mais regardez ce qu'il est écrit. Et puis on cite deux, trois versets et on enseigne une vérité dans cela. Donc, ajoutez à vos listes, chaque fois que vous lisez la Bible, vous pouvez mettre à peu près 100 versets par question. Hein? Voilà, deuxième question. Quand est-ce qu'on peut louer Dieu? Alors, je cherche toujours le verset où c'est marqué que c'est dimanche matin à 10h. Quelqu'un l'a trouvé? Pas encore. Alors, vous avez trouvé peut-être un autre horaire. Qu'est-ce qu'il y a comme horaire dans la Bible pour louer Dieu? Psaume 133. Vas-y, tu cites. Ouais. Il y a des choses qui se retrouvent, mais c'est bien. Attends, il va le lire. Attends. Vas-y, lis.
Psaume
113.
Oui.
Lis.
Louez l'éternel serviteur de l'éternel. Louez-le, le nom de l'éternel. Que le nom de l'éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'au couchant, que le nom de l'éternel soit célébré.
Très bien. Voilà une donnée du temps. De maintenant jusqu'à jamais, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Donc il y a des définitions de temps qui sont assez vastes, hein, mais au moins ça nous donne une idée. Oui.
Verset 1 à 2.
Tu peux le lire.
Louez l'éternel, mon âme loue l'éternel. Je louerai l'éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai.
Voilà. Tant que je vivrai, tant que j'existerai. C'est très simple. Hein? Il y en a qui se posent des questions tellement compliquées. Ouais, mais maintenant, c'est pas le temps. C'est toujours le temps. Tu vis, tu existes, c'est le temps de louer. Autre précision de temps. Oui.
Psaume 145.
Oui.
Chaque jour, je te bénirai et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité.
Voilà. En même temps, c'est toujours à perpétuité, puis en même temps, c'est chaque jour. Donc, ça donne quand même une certaine régularité. Parce qu'on pourrait dire, bon, c'est toujours, donc je peux attendre après-demain ou dimanche. Non, chaque jour. Chaque jour est propice pour la louange. C'est un rythme que Dieu a donné à nos vies, la journée, le sommeil, le lever. Et chaque jour, c'est un rythme qu'on peut donner à notre louange. C'est intéressant. Ça enlève le côté religieux où on dit c'est dimanche qu'il faut louer Dieu. Hein? Chaque jour, on peut louer Dieu. Autre réponse, oui?
Psaume 34, verset 2.
34, verset 2, tu peux le lire?
Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche.
Voilà. En tout temps, sa louange est toujours dans ma bouche. Pas de limite, encore une fois. D'autres précisions sur le temps? Oui, mon frère?
81, 4. Oui. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de votre fête.
Voilà, à la pleine lune, à la nouvelle lune, au jour des fêtes. Ça veut dire dans les saisons. Ça, c'est une définition des saisons dans la Bible. Il y a des nouvelles lunes, il y a des jours, il y a des régularités dans notre programme, dans notre agenda, dans nos saisons de vie. Et aussi, c'est l'occasion de célébrer Dieu. Donc, d'avoir des régularités dans notre louange personnelle ou communautaire. On peut dire, on fait une soirée de louange, on fait un culte, on fait un moment de reconnaissance pour Dieu dans la saison, pour les saisons. Très bien. Il y a encore autre chose qu'on n'aurait pas cité. Est-ce qu'on peut louer Dieu la nuit? Parce que vous avez parlé du lever du soleil jusqu'au coucher. Puis après, quand on est couché, c'est fini? Durant les heures de la nuit. Ouais, exactement. Qui c'est qui peut me trouver ce verset? Je sais qu'il est pendant les heures de la nuit. Je sais que ça c'est un psaume. Moi, j'ai dans le psaume 119, il y a deux fois une situation versets 62 et 164. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Psaume 119, verset 62. Donc, des fois, si vous avez des insomnies, vous avez de la peine à dormir, plutôt que de vous plaindre, je me lève pour te louer au milieu de la nuit. Voyez là, l'affiche 72 heures de louange. On va louer Dieu au milieu de la nuit. Ça ne va pas s'arrêter. Même s'il y en a qui vont se coucher, il y en a d'autres qui vont continuer. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur la face de la terre, avec les fuseaux horaires, avec les chrétiens qui se trouvent sur toute la terre. Il y a tout le temps des gens qui louent Dieu, sans cesse. Il y en a qui vont se coucher, mais il y en a d'autres qui se lèvent pour le louer. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Et dans le ciel, c'est la même chose. Ça n'arrête pas. Ils continuent. Ils n'ont pas les mêmes horaires que sur terre. Ils louent Dieu. Psaume 108, verset 3. Je me réveille. Je veux réveiller l'aurore pour te louer. Et au réveil, au début de la journée, milieu de la nuit, jour la nuit, 7 fois par jour, psaume 119, verset 164. 7 fois par jour, là aussi c'est une régularité. Psaume 119, verset 164. C'est un très grand psaume, c'est le plus long. Voilà, il y a beaucoup de versets. Et puis là aussi, il y a Hébreux 13, verset 15, qui est déjà avant aussi. C'est offrant sans cesse à Dieu. Hébreux 13, 15. Offrant sans cesse à Dieu. Donc, au niveau du timing, des horaires. Alors, bien sûr qu'on a nos programmes humains. On est obligé de mettre des timings, des horaires, des moments de rencontre, des moments de réunion. Mais en même temps, il n'y a aucune excuse par rapport au temps qui serait valable de dire « c'est pas le moment de louer Dieu ». Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. C'est toujours le moment de louer Dieu. C'est toujours juste de le faire. Et ça peut déjà simplement aider les chrétiens à comprendre. C'est juste. Oui, mais ce serait mieux. Non, c'est juste de le faire. Chaque moment est propice dans le temps. Et en même temps, c'est bien de fixer des moments précis dans notre agenda, dans notre horaire, pour le faire régulièrement, chaque jour, au milieu de la nuit, au début du soleil, au lever du soleil, au coucher du soleil. Ok, maintenant question 3. Où il faut louer Dieu? Dans quel endroit? Alors, j'aimerais bien aussi avoir l'adresse de l'église où il faut aller pour louer Dieu. Psaume 150, verset 1. Dis. Oui, tu le cites. Voilà. C'est ça. Dans son sanctuaire, c'est-à-dire au temple, à l'endroit où on se retrouve, mais aussi dans l'étendue où éclate sa puissance. C'est où l'étendue où éclate sa puissance? Partout, sur toute la terre. C'était le psaume 150, verset 1. Autre chose? Oui? Vas-y.
Le psaume 29, verset 10.
Amen. Dans son palais. Ça peut être un palais humain, ça peut être aussi le palais divin, le palais du ciel. Verset 9, ok, j'ai mis 10, verset 9, ok. Autre chose, autre endroit. Donc on a le temple, le palais. Donc le palais, c'est peut-être aussi le lieu du gouvernement, le lieu de la politique. On dit, oh là, on ne peut pas louer Dieu. Mais bien sûr qu'on peut louer Dieu. Et c'est bien de louer Dieu dans un endroit précis. Oui.
Psaume 149, verset 1.
Oui. Dans l'assemblée des frères. Donc, voilà, l'assemblée, c'est l'endroit où on se rassemble, où on se retrouve, et c'est important qu'il y ait de la louange. Heureusement, nos églises ont cette habitude. En général, quand on se retrouve à l'église, on chante, mais c'est bien de le trouver dans la Bible et de savoir pourquoi on le fait. Autre précision de lieu. Jusqu'aux extrémités de la terre. Psaume 48, verset 11, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Dieu n'a pas oublié les îles lointaines, dans le Pacifique, les endroits très très éloignés. J'étais à une conférence à Jérusalem et là il y avait des frères et sœurs qui venaient de Tahiti. Et Tahiti, si vous faites un trou sous la terre depuis Jérusalem, vous arrivez de l'autre côté à Tahiti. Donc c'est l'opposé de Jérusalem. Et Jésus a dit, je vous envoie jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on peut imaginer que c'est le plus extrême depuis Jérusalem, c'est Tahiti. Et là, il y avait des frères et sœurs qui étaient venus à Jérusalem pour une conférence et qui dit, on vient des extrémités de la terre et on revient à Jérusalem pour vous dire, on a rencontré Jésus et on l'aime et on le loue et on vient le louer avec vous. Et c'était vraiment fort d'entendre ça, voir que Dieu n'a pas oublié les îles les plus lointaines, et que là, il y a des gens qui le louent et qui l'adorent. Un autre endroit ?
Psaume 100, verset 4.
Oui ?
Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses paris avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom.
Voilà. Dans ses portes et dans ses parvis. Donc c'est intéressant, ça montre qu'il y a un cheminement. Et ça, on va le voir dans un message plus tard, aussi tout le cheminement de la louange, mais qu'il y a 10 endroits différents dans le temple. Il y a avant d'aller au temple, ensuite il y a les parvis, la cour du temple, ensuite il y a dans le temple, et puis il y a le lieu saint, lieu très saint. Chacun de ces endroits, on loue d'une manière différente. Mais en tout cas, on le loue dans chacun de ces endroits. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être à l'endroit clé. Déjà, avant de venir au temple, vous connaissez ce verset aussi qui dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison ». J'y suis pas encore. Ils sont en train de marcher. Ça fait peut-être, ils ont peut-être plusieurs jours de marche. Mais en marchant, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent déjà. Ils se réjouissent d'aller à l'endroit, la présence de Dieu. Vous avez encore trouvé des endroits intéressants? Voilà, c'est ça que j'attendais. Dans la prison, tu peux citer?
Actes 16, 25.
Paul et Silas sont en prison et ils louent Dieu. Combien de chrétiens font ça? On dit, ah, on va attendre d'être à l'église pour louer Dieu. Quand Dieu nous aura sortis de cette affaire-là, on pourra louer. Mais eux, ils n'attendent pas. Ils louent déjà dans la prison. Et c'est vrai qu'on n'a pas tous le privilège de pouvoir passer notre temps dans l'église ou dans les endroits sanctifiés pour louer Dieu. On passe plus de temps dans des endroits difficiles, dans des endroits qui ne sont pas prévus pour ça. Dans nos bureaux, dans nos entreprises, dans notre travail, et puis des fois dans des endroits encore plus difficiles comme la prison. Est-ce qu'on peut louer Dieu là? Oui. Paul et Silas nous le démontrent. Et je pense que vous avez tous entendu parler du grand réveil qu'il y a eu en Argentine dans la prison de Los Olmos, une des prisons les plus difficiles avec tous les plus grands criminels. Et là, il y a eu un immense réveil et ils sont des centaines de chrétiens dans cette prison qui louent Dieu jour et nuit. Ils font un relais de prière, ils intercèdent pour les nations, ils louent dans une toute petite chapelle, ils sont très serrés. Même les gardiens sont convertis, maintenant ils ont deux fois moins de gardiens, tellement ils sont sages, tellement ils sont bien, ils se comportent tellement bien. Et ils deviennent les gardiens des autres prisonniers, parce que c'est des tellement bons chrétiens, ils ont un bon témoignage envers le directeur de la prison, qui les transforme les prisonniers en gardiens pour les autres. Et qui louent Dieu dans cette prison, et qui gardent, et qui veulent rester dans cette prison, parce qu'ils savent que c'est leur lieu de mission. Certains, ils sont renvoyés parce qu'ils ont tellement bon comportement, ils les laissent sortir et d'autres restent, et ils témoignent, et ils louent Dieu. Donc, chaque endroit est propice, hein. Quand Dieu nous touche, on peut le louer dans chaque endroit. Merveilleux. Ensuite, question 4, qui peut louer Dieu? Qui c'est qui a le droit, qui est appelé à le faire? Alors, il y en a peut-être... Oui? Psaume 150, verset 6. Voilà, t'as déjà donné toute la réponse. Mais c'est bien, c'est tout simple. La Bible, elle est simple. Puis en même temps, c'est tellement fort. Tu respires? Ben, loue Dieu. Ben, des fois, le dimanche matin, je commence le culte comme ça. Je dis, il y a quelqu'un qui respire pas? Ok, il a le droit de pas louer. Mais tous les autres, vous pouvez louer. Hein? Parce que des fois, les gens, ils ont des excuses, des pensées, des idées qui font, ah, mais tu sais, je peux pas louer. Je suis pas en forme, j'ai un problème. Si tu respires, tu peux louer. Ok? C'est déjà la bonne, première chose. Et ensuite, il y a quand même des précisions dans la Bible sur certaines personnes, sur certains groupes. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Question 4. Qui? Oui?
Psaume
133. 133? 103. Verset 22. Tu peux le citer?
Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tout le lieu de sa domination.
Voilà. Vous toutes ses œuvres. Donc, tous ceux que Dieu a créés, encore une fois, peuvent le louer. Mais les œuvres de Dieu, c'est pas que nous, c'est pas que les humains, c'est aussi la nature. Et on a plein de textes qui parlent que la nature loue Dieu. C'est beau de voir ça, hein? Oui?
Psaume
148,
verset 12. Jeune homme, jeune fille, vieillard et enfant.
Voilà. Jeune homme, jeune fille, vieillard, enfant. Donc on a des groupes de gens qu'on sépare. Dans la société, on s'adresse souvent à des groupes de gens. Ça, les jeunes font ça, les personnes âgées font ça. Mais là, ils les mettent tous ensemble pour louer Dieu. Et c'est intéressant. Parce que je crois pas que Dieu veut nous séparer pour le louer. Il y a des moments où il y a des réunions pour certains groupes de personnes, mais il y a un moment où on est tous ensemble, les jeunes, les vieux, filles, garçons, pour le louer. Ça, c'est très important. Oui?
Psaume 96.
96. 96, verset 1.
Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre.
Voilà. Donc, si vous habitez sur la terre, vous avez votre adresse à quelque part, vous êtes invité à le louer. Oui ? Ouais. Un texte fantastique, le psaume 148, qui nous parle de la nature, qui loue Dieu. Le feu, la grêle, les montagnes, les collines, ça peut nous surprendre. Hein. Mais c'est là qu'on voit comment la nature est un reflet de la gloire de Dieu et qu'au-delà de nos mots, de nos pensées, notre manière de faire, elle loue Dieu, la création. Je voyais en venant ici sur la route, les montagnes, le chasseral, les bois, les arbres. C'est, en automne, c'est merveilleux, les couleurs. Je disais, ça, c'est la gloire de Dieu. Le lac, les reflets sur le lac de Bienne, c'est absolument merveilleux. Et je crois que c'est une louange à Dieu. Et beaucoup de gens peuvent le reconnaître. Tu avais
113, verset 1.
113, verset 1. Tu le cites? Voilà, les serviteurs de l'Éternel. On est tous appelés à être serviteurs, puis encore plus particulièrement ceux qui s'appellent serviteurs de l'Éternel. C'est pas parce que tu sers Dieu dans un ministère que tu laisses la louange aux autres. C'est aussi ta responsabilité, hein. Oui?
Il y a le 66, verset 2. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux.
Voilà. 66, 2. Les gens du monde entier. Donc Dieu nous appelle de plusieurs manières, des fois des gens, des fois des personnages, des fois des serviteurs, des fois des jeunes gens, des fois des jeunes filles, des fois des vieillards, peu importe, mais il s'adresse à chaque catégorie pour qu'on le loue. Hein. Il y a encore autre chose, oui?
Psaume 97, verset 7.
Oui.
Louez-le, vous, nations de la terre.
Nations de la terre. Ça, c'est super. Dieu peut être glorifié par une nation. Vous imaginez une nation qui loue Dieu? Vous imaginez 4 millions, 6 millions, 10 millions, 20 millions d'habitants qui louent Dieu? Comment c'est possible? Parce que en tant qu'identité, on peut le louer en disant, voilà, ma nation te loue Dieu. Il y a des grands rassemblements de prières. Peut-être qu'on n'a jamais réussi à avoir tout le monde. Mais en tant que nation, on peut prendre position. Comme une nation va prendre une position politique, va prendre une position dans le monde des affaires, va prendre une position spirituelle. Voilà, notre nation, nous choisissons de louer Dieu. Et quand un président, une personne d'autorité peut le déclarer, ça a un poids énorme, hein. Ma nation loue Dieu et Dieu attend la louange de chaque nation. Et puis, bien sûr, dans l'Apocalypse, vous connaissez, il est dit chaque peuple, chaque tribu, chaque langue. Donc ça, c'est important de trouver cela, hein. On va le voir plus tard, mais je vous le cite déjà. Donc les groupes, Dieu a fait des groupes différents et chacun de ces groupes est appelé à la même chose, à louer Dieu. Mais en tant qu'identité de groupe, de culture, de nation, de peuple, ça a une force, ça a une puissance. On dit, on est ensemble avec notre identité pour louer Dieu. Encore une dernière citation pour cette question? Oui?
Apocalypse 5, 13.
Voilà. Vas-y.
Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au sein des siècles.
Voilà. Amen. Toutes les créatures. Donc, il y a même des créatures qu'on n'imagine peut-être pas. On ne sait pas trop comment elles sont. Parce qu'il dit créatures, hein. Mais ça veut dire aussi les créatures spirituelles, hein. Les anges, les puissances sont appelés à louer Dieu. Et ceux qui sont dans le ciel, ceux qui sont déjà dans sa présence et ceux qui vont aller dans sa présence seront appelés à l'adorer. Donc, c'est tout simple, ces réponses. Mais en même temps, c'est précis et c'est particulier. On peut se sentir tous concernés et c'est important d'interpeller le peuple de Dieu et la terre à la louange. Des fois, les gens disent, ah, mais ça, c'est réservé à une élite, ou c'est réservé au pasteur, ou c'est réservé au groupe de louange, ou c'est réservé à telle personne. Si vous lisez la Bible, vous encouragez les gens à dire, non, tu respires, tu es jeune, tu es serviteur, tu habites sur la terre, tu es du monde entier, tu peux le louer. Tu es aux extrémités de la terre. Aucune excuse humaine n'est valable. Tous sont appelés à louer. Ok, on va faire la pause et on prendra la question juste après. Donc, on continue avec la question 5. Pourquoi? Pourquoi louer Dieu? Ça, c'est une question fondamentale, très importante. Vas-y. Vas-y. Psaume 150, verset 2. Voilà. Pour ses œuvres et selon l'immensité de sa grandeur. Donc, ça donne déjà deux dimensions, deux directions très importantes sur le pourquoi. On se concentre, merci. Le pourquoi, c'est déjà pour ce que Dieu fait et pour qui il est. C'est deux dimensions qu'on verra aussi en détail qui sont très très importantes. Il n'y a pas seulement l'un, pas seulement l'autre. Oui ?
Psaume 100, verset 3, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons.
Voilà, très important. Psaume 100, verset 3, il nous a fait et nous lui appartenons. Être sûr qu'on est créé par Dieu. La création, vous savez comment l'ennemi dans la philosophie du monde a réussi à détruire cette pensée de la création, que Dieu nous a créé, et que c'est une grande lutte dans les milieux d'éducation, dans les milieux politiques, mais la création c'est fondamental. Savoir qu'on a été créé par Dieu, ça donne un sens à notre louange. Si on n'est pas convaincu de ça, bien sûr que ça n'a aucun sens de louer Dieu. Oui ?
1 Samuel chapitre 2.
1 Samuel 2.
Verset 2.
2. Voilà, ça nous décrit Dieu. Nul n'est saint comme lui, il n'y en a point d'autre que lui. Donc c'est un sens pour lequel on le loue, parce qu'il n'y a personne d'autre comme lui. Autre chose ?
Apocalypse 19, verset 10.
Apocalypse 19, 10.
Adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie.
Prophétie, oui. Adore Dieu, c'est une invitation de l'ange à adorer Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est le Dieu, c'est lui seul qu'il mérite. Autre chose ?
Psaume 28, 7.
28, psaume 28, verset 7.
L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, mon cœur a eu sa confiance. J'ai été secouru. Et mon cœur s'est réjoui. Et je le célébrerai dans mon cantique.
Voilà. Donc, il y a même la réponse à la question 1. Je le célébrerai, etc. Mon cœur est touché. Qui, mais pourquoi ? Parce qu'il est mon Dieu, parce qu'il est mon rocher. Donc toutes les descriptions qu'on a dans la parole de Dieu donnent un sens à notre louange. Oui.
Psaume 96, verset 4.
Psaume 96, verset 4.
Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Le redoutable par-dessus tous les dieux.
Très grand, c'est 96 ou 96 ? Ouais, c'est ça.
Non,
on se comprend. Hein. Verset 4. Il est très grand, très digne des louanges. Très bien. Encore autre chose ? Oui.
Psaume 138.
Psaume 138. Verset
39.
Ah, 139, 14. Oui. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ça, c'est un verset fantastique à comprendre, à saisir dans la louange. Si tu n'acceptes pas la création de Dieu en toi, si tu ne penses pas que Dieu t'a bien créé, ça va être difficile de louer. Si tu es convaincu qu'il a fait de toi une créature merveilleuse dans tout ce que tu es, alors ça va donner un sens aussi à ta louange. Pour qui tu es. Et ça, c'est une sainte identité en Dieu, ça donne un sens à notre louange.
Oui. Psaume
107, verset 1. Psaume 107, 1.
Oui,
car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Donc ça, c'est deux éléments aussi importants du caractère de Dieu, sa bonté et sa miséricorde qui donnent un sens à la louange. Autre chose ? Oui.
Psaume 99, 9.
99, 9.
Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et profanez-vous sur sa montagne sainte.
Voilà.
Car il est saint, l'Éternel, notre Dieu.
Car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Voilà. Une des caractéristiques de sa personne fait qu'on le loue à cause de sa sainteté. Tout à fait. Encore autre chose qui n'aurait pas été citée. Exode 15, 11.
Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel.
Voilà.
Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges.
Qui est comme toi parmi les dieux, digne sainteté, opérant des miracles, des prodiges. Même dans le monde des dieux, qu'on ne connaît peut-être pas très bien nous-mêmes, il n'y a personne comme lui. Hein. La Bible dit très souvent, décrit Dieu dans l'univers, dans la création, dans la plénitude de... de ce monde qui nous dépasse, et là aussi, il n'y en a point comme lui. Donc c'est important. Donc pourquoi, on peut encore ajouter la liste, elle est très très longue. Elle est très très longue cette liste. Et c'est important d'avoir des raisons. Parce que vous savez, moi je constate que malheureusement, des chrétiens viennent dans des cultes, dans des soirées, et ils ne savent pas pourquoi. Ils sont là, et ils ne savent même pas pourquoi louer Dieu. On leur dit de chanter, puis ils chantent parce qu'il faut chanter. Parce que tout le monde chante. Puis ils disent, je serais stupide si je ne chante pas. Mais ils ne savent même pas pourquoi. Et c'est important de leur expliquer ça, de le comprendre. Et puis, bien sûr, les encourager à lire la parole, et d'avoir aussi des chants qui disent cela. Parce que c'est ça aussi qui va aider les gens à louer, c'est si les chants répondent à ces questions. Si dans les chants, dans nos paroles, on dit comment louer Dieu, ça va être plus facile. Si on dit qu'il faut lever les mains, les gens vont commencer à comprendre. Ah, il faut lever les mains. Pourquoi? Parce que la Bible le dit. La Bible dit que je lève les mains dans le lieu saint. Quand on dit, les gens disent, ah, mais c'est pas le moment, je suis fatigué, je suis pas en forme, etc. Si tu le chantes, que tu peux louer tout le temps, sans cesse, sans interruption, de toute l'éternité, dès maintenant jusqu'à la fin du lever du soleil, ça va rentrer dans ton esprit, tu vas commencer à le comprendre. Ou, la même chose, si on apprend à louer Dieu, pas seulement à l'église, mais aussi à l'extérieur. C'est le pasteur Juan Carlos Ortiz, peut-être certains connaissent, qui était un grand revivaliste du réveil en Argentine dans les années 70-80, et après il a continué son ministère, mais là-bas il y a un moment très fort, et ils étaient en retraite avec son église, il raconte ça dans son livre, Disciple, et ils étaient dans la campagne, ils avaient loué un chalet pour faire un séminaire, une retraite avec les anciens. Et puis là, ils ont dit, on va prier maintenant. Ils sont sortis, il faisait beau, ils sont sortis dans le pré, à côté de l'église, du chalet, et ils se sont mis à prier. Ils avaient pris des chaises, ils se sont mis comme à l'église. Donc ils ont baissé la tête, ils ont fermé les yeux, ils se sont mis à prier. Et puis ça bougeait pas tellement, c'était un petit peu ennuyant, fatigant. Tout d'un coup, le pasteur, il ouvre les yeux, puis regarde, puis se lève de sa chaise, puis voit les arbres, les fleurs, et puis il exhorte ses frères et sœurs, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous louez Dieu comme si on était dans le bunker au sous-sol de l'église, dans quatre murs blancs. Ici, on est dans la création de Dieu, il y a des arbres, il y a des fleurs, c'est magnifique, regardez, c'est nature. Est-ce qu'on peut pas louer Dieu différemment? Il dit, après, on a vécu la meilleure réunion de louange qu'on a jamais vécue. On a commencé à sauter, à grimper aux arbres, à se rouler dans l'herbe, et à célébrer Dieu avec les yeux ouverts, avec la joie, avec la fête. Vous voyez, des fois, on est formaté dans une forme, dans un lieu, puis on fait les choses tout le temps la même chose. Profitez, si Dieu peut être loué partout, il faut le louer différemment aussi, hein. Si vous êtes dans la nature, c'est pas la même chose si vous êtes derrière les bancs d'église et puis que vous avez pas la place pour bouger. Mais il faut saisir les occasions et exprimer différemment selon le lieu où on se trouve. Et puis qui? Alors là aussi, n'excluez pas les enfants ou les personnes âgées ou en groupe de personnes. Tous peuvent le louer, hein. Et on cite ces versets, on les exploite pour le vivre et l'expérimenter. Et moi, combien de fois j'étais touché de voir des enfants louer Dieu, ou de voir des personnes plus âgées, plus fatiguées, moins bien dans leur corps, mais qui louent Dieu avec un cœur, avec une voix, avec une expression tellement forte. Donc, il faut inclure tout le monde. Et aussi des gens peut-être d'autres races, d'autres langues. Est-ce que vous avez déjà entendu louer Dieu dans une autre langue que la vôtre, hein? Des fois, on dit, mais je comprends pas, pourquoi, etc. Ou chanter dans une autre langue que votre langue habituelle. Et ça, c'est très bon. Parce qu'on apprend à sentir les autres choses et à voir les choses différemment, à comprendre que Dieu accepte ça. Et je pense spécialement quand il y a des problèmes culturels ou des problèmes en certaines cultures, certaines langues. Moi, je me souviens la première fois que j'ai été chanté en allemand, c'était pas facile, hein. Parce qu'il y a toujours un problème entre la Suisse allemande, Suisse romande, des fois entre la culture, la manière de ressentir les choses, d'exprimer. Alors, moi, j'encourage les Suisses romands à aller chanter en allemand. Du oh, moi je fais pas l'allemand, j'aime pas. Ah, il y en a quelques-uns qui sont convaincus là. Moi j'ai pas de problème, parce que j'aime bien l'allemand, je m'y suis mis assez facilement. Mais je sais que certains, ça leur pose un vrai problème. Et tout d'un coup, il y a quelque chose dans leur cœur qui est révélé. Et la même chose dans l'autre sens. Et ça peut être en deux langues, de deux tribus différentes dans votre pays. N'importe où, on peut avoir ce problème. Le fait de chanter dans la langue, on s'approche de cette culture. Puis on se dit, mais eux aussi ils louent Dieu. Eux aussi ils aiment Dieu. Avec leurs différences, avec leur culture, et ils bénissent Dieu. Et pourquoi? Bien sûr que ça, c'est le fondement. Savoir pourquoi on le fait, c'est connaître Dieu. Qui est Dieu? Quel est ce Dieu qu'on adore? Parce qu'il y a des tas de gens qui sont encore, ils sont peut-être chrétiens, mais ils connaissent pas vraiment Dieu. Ils connaissent pas vraiment son cœur de père. Ils connaissent pas vraiment son amour, sa miséricorde, sa grandeur. Et quand ils chantent, ils disent, ils sont encore dans la rébellion face à une situation peut-être où ils disent, mais pourquoi Dieu a fait ça? Alors que c'est pas Dieu qui l'a fait. et que c'est même pas Dieu qui l'a voulu, mais qu'il leur est arrivé peut-être un malheur ou une difficulté dans la vie et qu'ils en veulent à Dieu et ça les empêche de le louer. Mais s'ils connaissaient vraiment Dieu, ils pourraient le louer. Donc notre responsabilité, c'est d'enseigner sur qui est Dieu et de comprendre qui il est et pourquoi on doit le louer, pourquoi on peut le louer. Donc il y a tellement d'expressions, je peux encore vous en citer, il y en a beaucoup qui vont être citées durant ce cours, et vous rajoutez vraiment des réponses à ces listes. Ça va vous aider déjà, vous personnellement. Mais je pense qu'un des fondements, c'est ce qui a été cité, c'est le psaume 139. C'est connaître notre identité. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je crois que chaque chrétien doit pouvoir se regarder dans le miroir, en face, dans les yeux, et dire, Seigneur, je te loue de ce que moi, et vous mettez votre prénom là-dedans. Vous dites, je te loue de ce que moi, Sylvain, je suis une créature merveilleuse et je peux te louer. Et je sais que pour certains, c'est un problème. Ce n'est pas facile parce qu'on vous a rejeté, parce qu'on vous a dit toutes sortes de choses, parce que vos parents, parce que l'école, parce que l'éducation vous a dit des choses négatives sur votre personnalité, sur votre corps, sur votre identité. Et à cause de ça, vous n'arrivez pas à le faire. Mais c'est une guérison totale et très importante quand vous arrivez à le faire, quand vous arrivez à le chanter. Et je vous encourage à le faire. Ce n'est pas de l'égocentrisme, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est vraiment 100% biblique. Parce que ça veut dire, Dieu, je suis content que tu m'as créé. Et comme tu m'as créé. Si on dit, ok, Seigneur, je suis content, mais quand même, je pense que tu aurais pu faire un peu mieux. Hein? J'imaginais que tu fasses de moi quelqu'un qui fait 1m90, les cheveux blonds, les yeux bleus, tu vois. Et puis on a une autre idée, parce que la société veut nous changer. La société veut nous changer d'une manière négative parce qu'elle n'aime pas ce que Dieu a fait. Bien sûr, c'est Satan là derrière. Satan conteste ce que Dieu crée. Hein? Donc, il essaye de faire de toi une autre personne pour que tu ne sois pas heureux de qui tu es. Alors que Dieu, il dit le contraire. Tu es bien fait, tu es bien créé, tu es unique, incomparable. Donc, tu peux louer. Et ça, c'est la force de Dieu, c'est qu'il nous a créé unique. Vous savez, sur la terre, quand on crée quelque chose, on ne fait pas quelque chose d'unique. On fait un objet, une maison, une voiture, et on la copie après. Tout le monde veut la même chose. Et on montre un standard. Ça, c'est la mode. Ça, il faut avoir une voiture comme ça si tu veux être quelqu'un de bien. Il faut avoir une maison comme ça. Il faut avoir des habits comme ça si tu veux être bien. Il faut avoir un téléphone comme ça. Hein? C'est quoi ton téléphone? Regarde le mien. Il est bien. Ça, c'est les meilleurs. Hein? Et on se compare et on choisit. Mais tous les téléphones sont bien pourvu qu'ils fonctionnent. Hein? C'est ça qui compte. Le plus important, c'est qui je suis, moi. C'est qui je suis moi. Et Dieu va pas te copier. Et même s'il y a des gens qui se ressemblent, vous connaissez des gens qui se ressemblent. Des fois, on parle de sosie, ou il y a même des fois des jumeaux qui se ressemblent. Mais si vous les connaissez bien, ils sont différents. Même les jumeaux, ils sont dans votre famille ou proche de vous, vous voyez tout de suite la différence. Vous reconnaissez des détails dans leur caractère, dans leur comportement, dans leur attitude qui font qu'ils sont différents. Ça, c'est Dieu. Sur toute la terre, vous imaginez qu'il n'y a jamais eu deux personnes comme toi. Jamais, même de toute l'éternité, depuis le début de la création jusqu'à la fin, il n'y aura jamais quelqu'un comme toi. Même si on te dit, oh, tu sais, tu es comme le grand-père. Hein? Des fois, dans la famille, on dit, oh, lui, il ressemble à sa mère, lui, il a le caractère du père et tout ça. Même si, bien sûr, on a des ressemblances à cause de notre éducation. Mais on est tous uniques, tous différents. Et c'est ça qui donne un sens à notre adoration. C'est ça qui donne un sens à notre pourquoi. Je loue Dieu parce que je suis unique. Et vous savez, quelqu'un m'a dit une fois, et ça m'a beaucoup aidé, personne ne peut louer Dieu à ta place. T'as déjà pensé à ça? Personne ne peut louer Dieu à ta place. Tu peux dire à quelqu'un, prie pour moi, intercède pour moi, va évangéliser pour moi, va porter ça à la grand-mère pour moi, va faire ci pour moi. Tu peux pas dire, va louer Dieu pour moi. J'ai pas le temps, je suis trop occupé, va louer Dieu. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu, il attend ta louange. Tu es le seul qui peut donner ta propre louange à Dieu. Comme chacun de mes enfants m'apporte quelque chose de différent. J'ai 4 enfants. Quand je rentre à la maison, je veux les voir, les 4. Je veux parler aux 4. Je ne veux pas entendre le grand Mathieu qui dit « Ok papa, on est content que tu sois là, je te dis bonjour de la part des 4. Hein? » Ça ne me suffit pas. Non, je veux une relation différente avec chacun d'eux parce que leur caractère est différent, leur âge est différent, leur identité est différente. Donc je m'intéresse à chacun d'eux dans sa réalité, dans sa vie. Et Dieu aussi s'intéresse à chacun de nous et reçoit la louange de chacun de nous d'une manière différente. Alors dans le qui loue Dieu aussi, la question 4, je pense que c'est aussi important de citer des noms. Si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il n'y avait pas que des spécialistes. Quand on parle louange, on parle toujours de David, bien sûr, parce que David, c'est l'exemple type d'un adorateur. Et on va beaucoup en parler. Il a écrit beaucoup de psaumes, un tiers des psaumes ont été écrits par David. Il était musicien, il était compositeur, il était aussi roi, guerrier, on connaît un peu toute son histoire. Mais Vous allez voir dans la Bible qu'il n'y a pas que David qui a loué Dieu. Hein? Tous les autres, qu'ils soient prophètes, qu'ils soient missionnaires, évangélistes, apôtres, disciples, ils ont aussi loué Dieu. Et c'est important de voir. Prendre dans l'Ancien Testament, chaque personnage important, quand il rencontre Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit un autel d'adoration. Il commence par ça, pour dire merci Seigneur. Merci de m'avoir rencontré, merci de m'avoir appelé, et je te redonne l'honneur. Et un autel d'adoration, c'était pas un petit truc comme ça, hein. C'est pas en 5 minutes, il fallait bâtir l'autel, c'était un effort, mettre les pierres, aller attraper un animal, tuer l'animal. Le sacrifice, c'était de la valeur, ça coûtait quelque chose. Et bien sûr, tous ceux qui ont été rois, qui ont eu des responsabilités, ils venaient au temple et ils apportaient leur sacrifice. Donc, ils donnaient leur adoration à Dieu. Donc, vous pouvez voir les exemples de Abraham, Moïse, Isaac, Jacob, Élie, Ésaïe, Jérémie, Asaph, Néhémie, Job, tous, ils ont été appelés à louer Dieu. Et ils l'ont fait dans leur vie. Alors, on ne nous donne pas le résumé de leur vie, tous les jours ce qu'ils faisaient, mais on voit que ça faisait partie de leur vie courante. Et dans le Nouveau Testament, la même chose. On a cité l'exemple de Paul en prison, Paul et Barnabas, mais on a aussi Pierre, Jean et les autres disciples qui étaient avec Jésus, qui étaient à table. Quand ils étaient à table, ils chantaient, ils louaient Dieu, ils allaient au temple, ils vivaient tout cela de manière régulière. Donc ça montre que la louange n'est pas réservée à des gens spéciaux. Ou même si tu as un ministère ou un appel précis, tu es impliqué dans cette louange. Et je trouve que c'est important de bien le comprendre. Je cite aussi Ésaïe 43, verset 21, qui dit « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Donc Dieu choisit un peuple, il appelle un peuple, et il dit que ce peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va publier ses louanges. Donc ça veut dire, j'aime bien ce mot « publier ». Quand tu publies, c'est que c'est public. Hein? Soit par écrit, soit sur un papillon, soit sur un journal, soit sur un livre, soit sur un haut-parleur, soit avec un CD, avec une parole, mais c'est public. Donc ceux que Dieu a appelés, formés, choisis, ils vont publier ses louanges. Et ça me semble fondamental de bien comprendre, et je suis très content de pouvoir donner ce cours ici, parce que je crois que la louange doit être comprise par tout le peuple de Dieu. Certaines églises m'invitent pour donner un enseignement et disent « alors ça sera pour les musiciens ». Et ils me mettent dans une petite salle à part et je m'occupe des musiciens. C'est très bien parce que je peux leur donner des cours techniques précis sur la musique et sur la manière. Mais je crois et je le demande toujours au pasteur, au responsable, je veux enseigner toute l'église. Parce que toute l'église doit apprendre à louer Dieu. Parce que Dieu, il va recevoir la louange de tout le monde. Les musiciens sont juste là pour aider, pour soutenir, pour tirer. Peut-être qu'ils sont devant, c'est la locomotive, mais il faut que tous les wagons soient là. Il faut que tout le monde suive dans la louange et le peuple de Dieu est appelé entièrement à le louer. Puisque tu respires, tu es appelé à louer. Hein, on l'a vu et j'aime vraiment essayer de casser toutes les boîtes. Parce que souvent, je vois qu'on met des boîtes. On dit, ça c'est pour cette personne, ça c'est pour cette manière-là, ça c'est comme ça qu'on fait. Et on sépare et on fait des groupes trop séparés sur la louange. Alors que la louange, finalement, on voit avec ce tableau-là, avec toutes ces questions, c'est quelque chose de très très vaste, qui englobe tout le peuple de Dieu, qui l'englobe tout le temps, sans cesse, de toute l'éternité, dans tous les lieux, sur toute la terre. Je trouve ça incroyable. Donc chaque fois que j'entends un pasteur, une église, une dénomination qui met une limite, je dis c'est pas juste, c'est pas juste, ça va très loin. Vous avez entendu même qu'il y a des gens qui dépassent la Terre, qui vont jusque dans les étoiles, des astronautes. Vous savez qu'il y a plusieurs astronautes chrétiens, des astronautes américains qui étaient chrétiens. J'ai eu la chance de rencontrer un qui s'appelait James Irwin, maintenant il est décédé. Il était sur la Lune et c'est lui qui a dit, l'homme a fait un plus grand pas, Dieu a fait un plus grand pas quand il est venu sur Terre que l'homme quand il a posé le pied sur la Lune. Hein, c'est à peu près ça qu'il dit. Et lui, il n'a pas attendu de redescendre sur Terre pour louer Dieu. Je suis sûr qu'il a loué Dieu sur la Lune. Hein. On devrait dire, c'est le premier homme qui a loué Dieu sur la Lune. On pourrait faire une conférence sur ce sujet-là. Hein. Mais ça montre que toutes les limites qu'on met, elles sont trop petites. Dieu est plus grand que ce qu'on pense. Et il faut encourager les gens à dépasser leurs limites. Et c'est ce que j'essaye de faire, encourager les gens. Si vous avez loué Dieu pendant 30 minutes, vous avez trouvé que c'était merveilleux, essayez de louer Dieu pendant une heure. Et puis, vous avez bientôt 72 heures de louange, vous pouvez essayer. Il y a quelqu'un qui est venu une fois parce que ça fait 7 ans qu'on fait 72 heures de louange toutes les années dans une autre ville. On essaie de toucher les 4 régions de la Suisse avec des groupes dans toutes les langues. Donc, on essaie de louer justement dans toutes les langues. Il y a des groupes qui viennent louer en italien. Il y a des groupes qui viennent louer en allemand. Il y a des groupes qui viennent louer en romanche, une langue qui est parlée dans les montagnes au fond de la Suisse. Et il y a des groupes qui vont louer en anglais, d'autres en français, et peut-être même en espagnol et dans d'autres langues. Donc déjà là, on mélange les langues. On écoute les langues des nations, des peuples. Puis ensuite, pendant le temps, dans la durée, si tu as toujours loué Dieu le matin, essaye de louer Dieu l'après-midi. Louer Dieu le soir. Louer Dieu au milieu de la nuit, c'est différent. Si tu dors, tu te lèves à 2 heures du matin, tu vas louer Dieu. Il se passe quelque chose dans ton cœur. Et ça apporte quelque chose de différent parce que tu touches une autre sphère. Et on sait combien aussi l'ennemi travaille dans les ténèbres, travaille dans la nuit. Il y en a besoin aussi que les chrétiens se lèvent et adorent durant la nuit et le célèbrent durant la nuit. Donc, ça signifie pas qu'on n'a plus le droit de dormir, hein. Quelqu'un qui est venu la première fois aux 72 heures, puis au bout de 24 heures, il était très fatigué. Il dit, est-ce que j'ai le droit d'aller me coucher? Je dis, bien sûr. Tu peux aller te reposer, tu vas revenir après. Et quand tu reviendras, ça va continuer. Il y en a d'autres qui se sont reposés avant. C'est ça, c'est un tournus. Hein. Ensemble, on se partage le travail, mais on loue Dieu. Mais d'une manière continuelle, sans cesse, ça va continuer. Et c'est juste un exemple, et on parlera quand on va parler du tabernacle, de ce que Dieu veut faire. Une louange continuelle. Dans le ciel, ça continue. Ça s'arrête pas. Ça s'est jamais arrêté. Les anges qui sont devant lui, ils le louent sans cesse. 24 heures sur 24. Donc, nous sur terre, on est appelé à nous connecter au ciel. À voir comment ça se passe dans le ciel. Puis c'est notre référence. Quand on sera avec lui, ce sera comme ça. Donc quand on commence à louer un petit peu plus que ce qu'on a déjà fait, on goûte à autre chose. Quelqu'un qui a toujours loué Dieu assis, tu lui dis de se lever. C'est déjà un exploit. Hein? Quelqu'un qui a jamais levé les mains, tu lui dis de lever les mains, mais c'est incroyable. Il a l'impression que les mains lui collent au corps, hein. Puis tout à coup, il commence à utiliser ses mains, puis après avec les pieds, hein. Alors je sais que pour certaines cultures, c'est plus facile. Ça bouge tout de suite, c'est très bien. Et puis pour d'autres, c'est très compliqué. Juste de lever les pieds, juste de les décoller, l'impression qu'ils sont collés par terre, sont cloués au sol. Je leur dis, mais pourquoi vous laissez les pieds comme ça quand vous marchez, hein? Vous bougez vos pieds. Donc, dans la louange aussi, vous pouvez marcher, vous pouvez bouger. Donc voilà, un petit panneau, une petite introduction pour vous dire, dépassez vos limites et encouragez les chrétiens à dépasser les limites et aller plus loin dans la louange. Faut pas se limiter en quoi que ce soit parce que la Bible, elle est illimitée, hein. Elle nous parle de l'éternité, c'est le but à atteindre, c'est un jour dans l'éternité. Et là, on va le louer sans cesse. Ok, on va changer de sujet maintenant. On va prendre la louange dans l'Ancien Testament et plus particulièrement dans les chroniques. Alors vous pouvez prendre vos bibles dans les chroniques et on va regarder ça ensemble.